Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 2, chapitre 9, La prédicatrice. Aumont n'avait pas été long à prendre fait et cause pour les spiritualistes. En réalité, dès qu'Eleanor était venue le trouver pour lui transmettre la requête d'Irene et ses sombres avertissements, il avait jugé bon d'user du peu de pouvoir qui lui restait pour mettre entre ses mains tous les atouts possibles. Il se souvenait trop clairement de l'exécution d'Emeric, à laquelle il avait assisté de loin, impuissant. Il se souvenait de la silhouette encapuchonnée du frère sombre. Ainsi, il avait accéléré l'éradication des papillons, qui touchait presque à son terme, et avait décidé qu'on les élèverait, comme le faisaient les spiritualistes, dans les faubourgs de la cité. Les écoles, obligatoires pour les enfants, avaient été ouvertes, et de nombreux natifs de Hauteville s'étaient portés volontaires pour assurer l'enseignement de l'esprit. Bon an, mal an, les enfants d'Albâtre, toutes origines confondues, commençaient à s'essayer à diverses applications non-verbales. L'utilisation du verbe était pour le moment toujours limitée, mais l'implantation des pierres frontales avait recommencé. Sur les instances de nombreux natifs de Hauteville, l'apprentissage de la langue noble figurait aussi parmi les disciplines enseignées aux enfants. La génération future serait probablement bilingue et saurait maîtriser l'esprit presque aussi bien que jadis en Hauteville. Mais Irene, devant toutes ces mesures prises, se montrait insatisfaite. L'utilisation généralisée de l'esprit n'était pour elle qu'un premier pas. Elle souhaitait enseigner ses techniques spéciales et promouvoir ses valeurs. Elle souhaitait donner à la nouvelle Albâtre une impulsion spirituelle sans précédent. Aumont lui avait fourni l'autorisation d'enseigner, ainsi qu'un bâtiment de vaste dimension à cet effet, un ancien hôpital. Mais elle n'était pas contente du petit nombre d'élèves qui s'étaient présentés. Elle désirait que les techniques de la transe collective, seules capables, selon elle, de résister à un esprit puissant, fussent apprises par tous, enfants comme adultes, hauts et bas citoyens. Alors elle avait battu le pavé d'Albâtre et, telle une prêtresse errante des temps anciens, soutenant sa grossesse avec un bâton noueux et toujours suivie de deux ou trois enfants qui l'entouraient comme une nuée, elle avait prêché, infatigablement, devant chaque porte et à chaque carrefour, interpellant les uns, menaçant les autres, décrivant, avec toute l'éloquence dont elle était capable sans verbe, la ruine de sa propre cité. « J'ai survécu pour témoigner, disait-elle. J'ai survécu pour transmettre. Mais, comme si une malédiction fermait vos yeux et bouchait vos oreilles, votre cité fragile n'entend pas mon message. Écoutez le récit de la destruction de vos frères. Ils étaient unis, ils étaient puissants, ils étaient conscients. Leur chant collectif résonnait dans toute la vallée, et les lueurs de leurs pierres frontales faisaient une lueur plus vive que le soleil levant. Mais le frère sombre est arrivé, avec toute sa noire puissance, et mes frères sont tombés, étranglés, brûlés, fracassés. J'ai vu leurs cadavres, et je les ai portés en terre. Ils étaient comme un peuple de poupées qu'un enfant démon aurait réduite en charpie. Ce démon impitoyable n'a pas été vaincu, pauvre citoyen de la frêle Albâtre. Ce démon loge ici même, elle frappait le sol de son bâton, et il vous frappera. Laissez-moi vous enseigner comment vous défendre. Irene, comme une lame en train d'être forgée, semblait plus dure, plus inflexible qu'à son arrivée. Elle était habitée par son œuvre, comme par une lumière intérieure qui l'éclairait et la consumait à la fois du dedans. À Eleanor la regardait souvent avec étonnement, comme si elle n'eût pas été totalement humaine. Avait-elle ressemblé à cela lorsqu'elle-même prêchait la révolution? Non, elle ne le pensait pas. Cette jeune fille était d'une autre étoffe qu'elle-même. Elle était d'acier et de flamme. À Eleanor, Keller, Aumont montrèrent l'exemple et la suivirent un jour dans toutes ses prédications. Leur seule présence augmenta l'affluence de l'auditoire. Les natifs de Basseville, contre toute attente, furent les plus sensibles à ses exhortations. En Basseville, on était religieux par désespoir, superstitieux par tradition. On croyait volontiers aux maléfices et aux démons, dont le folklore formait un fond d'histoire inépuisable. On ne pratiquait pas la magie, mais la magie imprégnait toutes les représentations et tous les sentiments. La Hauteville avait, pour sa part, dédaigné depuis plusieurs siècles ses enfantillages, et vivait dans les lumières de la raison qui avait englobé même l'esprit. On pratiquait la magie sans y penser, comme on exerce son corps ou comme on utilise un outil. Mais on ne croyait plus depuis bien longtemps à aucune transcendance, qu'elle fût divine ou maléfique. La haute ville n'avait pour religion que la raison. Et voilà qu'arrivait cette jeune fille, à la laideur inspirée, pleine d'une énergie singulière, qui parlait un langage depuis longtemps oublié. Les natifs de Hauteville se montrèrent réticents à l'extrême, et lorsque les premiers cours d'esprit collectif furent donnés, on y vit beaucoup plus de natifs de Villebasse. Quelques savants curieux de cette nouvelle technique, quelques sceptiques éclairés qui ne voulaient pas critiquer sans savoir, quelques personnes ayant eu affaire avec les frères sombres et conservant d'eux un souvenir inquiétant, se joignirent malgré tout au petit bataillon, les uns à titre de spectateurs, les autres plus activement. Aujourd'hui, les fidèles s'étaient regroupés autour d'Irène dans la vaste cour du bâtiment, et parmi eux, la vieille Morga, qui depuis que le conseil avait été dissous, s'était bruyamment convertie. Irène commençait toujours ses cours par quelques dix essentiels et laissait leur sagesse imprégner son auditoire dans un silence recueilli. Le sage n'éprouve pas de fierté ni de honte pour ce que le hasard a fait, mais seulement pour ce que lui-même a fait. Les fidèles offraient à Irène leur front penché ou levé vers le ciel, leur visage éclairé d'un sourire ou pincé comme celui d'une statue. Ils étaient merveilleusement divers et l'étonnaient toujours par la variété de leur posture. Mais ils écoutaient, et ses paroles entraient dans leur âme. La parole, comme la musique, a besoin de silence, pas seulement pour être entendue, mais parce qu'elle en est constituée. Il y avait beaucoup de silence en elle, mais aussi les paroles bruissantes de Naïma, et, au-delà de Naïma, de toute cette communauté enfouie en elle, enterrée dans sa chair. Sa voix s'élevait avec force et clarté, car elle n'était pas une, mais tout un cœur. « Qui suis-je ? » demande l'idiot. « La multitude, » répond le sage. Ce dit-là ne lui avait pas été transmis, elle venait de le découvrir en elle. Lorsqu'elle se concentrait assez longtemps, et surtout lorsque les fidèles étaient là qui l'aidaient, elle découvrait de plus en plus souvent de nouvelles formules. Mais elle sentait au plus profond d'elle-même leur parfaite adéquation avec la philosophie qu'on lui avait transmise. Elle ne se demandait jamais si elle était fidèle aux spiritualistes, car elle les incarnait d'une façon si aveuglante et si sereine que la question ne se posait plus. Je vais maintenant vous inviter à me suivre dans mon chant. Notre cœur ne sera que le reflet de l'unisson plus profonde de nos esprits. Le diapason de ce chant se construira au fur et à mesure et variera en fonction des personnes qui entrent dans le cercle ou qui le quittent. La transe collective est un flux dynamique et fragile qui réclame toute votre concentration. Utilisez d'abord l'esprit pour faire le vide, fermez les yeux et puis concentrez-vous sur ma voix. Lorsque vous vous sentirez prêt, entrez dans la transe en mêlant votre chant à celui des autres. » Elle ferma les yeux et attendit un assez long moment avant de commencer. Tous les autres la regardaient. Sa lumière frontale brilla intensément, et sa voix retentit, claire et pure. Elle tint d'abord une seule note grave, très longtemps, puis elle introduisit un rythme, une respiration, et modula deux notes, puis trois, puis, au bout de quelques minutes, une structure harmonique très simple, dont la mélodie changeante et monotone à la fois, tournait autour de quatre ou cinq notes. Les premiers fidèles firent alors entendre leur voix. Certains se plaçaient beaucoup plus haut dans les aigus, d'autres modulaient deux notes de manière très répétitive, d'autres enfin répétaient la mélodie d'Irène de manière légèrement décalée, comme en canon. À chaque nouvelle entrée dans la transe, l'harmonie était déstabilisée et se reformait plus puissante quelques secondes plus tard. Les natifs de Hauteville faisaient luire leur pierre frontale et souriaient vaguement. Les natifs de Villebasse, plus timides, mettaient plus de temps à se lancer dans l'exercice. À Eleanor et Artus, les yeux clos, savouraient ces moments de pure spiritualité et de communion. La toute petite voix d'Artus s'essayait à des improvisations inattendues, mais toujours dans le rythme et dans l'harmonie. La voix d'Eleanor, plus forte et plus sage, répétait inlassablement le même motif harmonique qui agissait sur elle comme un baume bienfaisant. Elle sentait sa conscience s'élargir et les frontières de son individualité devenir floues, poreuses. Elle se sentait à la fois envahie par la transe et libre enfin de n'être plus enfermée dans son étroite personnalité. C'était une expérience à la fois merveilleuse et dérangeante. Le sentiment de dépassement de soi conduisait tout naturellement à un mépris de la mort, mais aussi de tous les sentiments personnels. Quelque chose en elle y résistait, quelque chose d'irréductible. La transe dura un long moment, puis, graduellement, les fidèles s'en retirèrent, comme des oiseaux rassemblés quittent un arbre où leur nuée avait trouvé refuge. Irène était en général la dernière à chanter, et ressortait de cet exercice épuisée. Les fidèles ne la dérangeaient pas, et la saluaient respectueusement avant de reprendre le chemin de leur vie personnelle. À Eleanor s'attarda un peu ce jour-là. « Il faut qu'une personne assure l'unité de la transe, » questionna-t-elle. « Oui, » confirma Irène, « il faut un catalyseur, un esprit qui se consacre à l'unisson des autres esprits. »« Et cela t'épuise. » « En effet, » dit Irène en souriant. « Mais je suis heureuse que les choses avancent. Il y a tant à apprendre. La transe collective doit ensuite être mêlée avec les chants. C'est ce qu'on appelle le verbe collectif. Cela demande beaucoup plus de concentration et de force. » Est-ce ainsi que les spiritualistes ont essayé de résister à Sornard ? Oui. Pourquoi penses-tu que nous réussirons là où ils ont échoué ? Nous sommes beaucoup plus nombreux et beaucoup plus divers. Le champ collectif s'enrichit de chaque histoire, de chaque expérience personnelle qui lui est immolée. Si tous les habitants de la cité pouvaient y parvenir, leur force serait colossale. Combien étions-nous aujourd'hui ? Une soixantaine. Ce n'est pas suffisant, dit Eleanor. Il faut hâter le processus. Irène sourit. Un processus s'enclenche, mais il ne se hâte pas à Eleanor. Nous ne sommes pas maîtres de la gestation des choses, ajouta-t-elle en caressant son ventre. À Eleanor hocha la tête. Irène était une interlocutrice intéressante, mais fatigante au bout d'un moment. Peut-être parce qu'elle n'avait pas le sens de l'humour. Mais cette appréciation toute personnelle n'avait pas la moindre importance, se tensa à Eleanor. En revenant chez elle à travers les rues de la ville en compagnie d'Artus, elle tenta de s'abandonner à la douceur un peu mélancolique de l'automne. De l'extérieur, la ville semblait aussi belle et presque en aussi bon ordre que par le passé. Les bâtiments, dans leur majesté, paraissaient insensibles aux caprices du temps. Les habitants, un peu plus brassés qu'autrefois, vivaient assez paisiblement, mais, de l'intérieur, comme un corps jeune et sain rongé par un mal intestin, des choses sombres couvaient et se multipliaient. Et à Eleanor ne songeait pas seulement à cet esprit maléfique dont Irène leur rebattait les oreilles. Il y avait aussi une discorde profonde, un antagonisme lourd de menaces. Cela lui faisait penser à un conte qu'elle avait lu dans son enfance. « Artus, t'ai-je déjà raconté l'histoire du lettré et du char ?»« Non ?» Un lettré de la Guilde du Savoir désirait faire le tour du monde. Il grimpa dans un char tiré par deux chevaux. L'un des chevaux tirait à U et l'autre à Dia, et finirent par démembrer le char. Alors le lettré s'en revint à la guilde et dit « J'ai fait le tour du monde en quelques minutes. Chaque être, et le monde lui-même, est régi par deux principes contraires, dont la lutte incessante maintient un équilibre et finit par amener la destruction. » « Il aurait dû ajouter quelque chose, » fit remarquer l'enfant. « Quoi donc ? Qu'il ne faut jamais atteler un char à deux principes contraires. N'est-ce pas ce qu'on est en train de faire en Albâtre ? Soupira pensivement à Eleanor. Quels sont les deux chevaux d'Albâtre ? L'esprit et l'argent, je suppose. Est-il possible de laisser le char immobile ? Il est immobile pour l'instant, Artus, mais les chevaux trépignent et vont bientôt s'élancer. Qu'adviendra-t-il d'Albâtre ? Je ne sais pas, Artus. Tout ce que je sais, c'est que j'espère que l'esprit sera plus fort que l'argent.